la page, on prend la page 45, et on est à la deuxième Mishnah du chapitre 8 de Baba Kama. Et on nous dit la chose suivante, on nous dit, donc on parle des dommages lorsque donc un... On a parlé dans la première Mishnah des cinq responsabilités qu'un homme a lorsqu'il a fait du dommage à un autre homme. Il a frappé un autre homme, par exemple. Donc on a parlé de cinq pôles de responsabilité. Donc je vais les reciter rapidement. On va les relire tout de suite. C'est Nezek, Tsar, Ripouille, Chevet, Bochet. Nezek, c'est-à-dire qu'il doit rembourser le dommage. C'est-à-dire qu'il a fait un dommage. Par exemple, il a cassé un bras, il doit rembourser le dommage. Tsar, c'est la peine, la souffrance que la personne a eue à cause du dommage. Ça peut s'évaluer par le Beit Din. Ripouille, c'est également les frais le frais du docteur. Donc le meilleur docteur qu'on peut trouver. Chevet, c'est le chômage, c'est-à-dire le temps qu'il ne pourra pas travailler à cause du coup. Et Bochette, c'est la honte qu'il a eue à cause du fait que ce coup était visible. Cinq choses. Et suite à ça, donc là on est page 45, la Mishnah nous dit « Zer Romer Ba'adam Mibachor ». Lorsque, Dieu préserve, on a endommagé, on a frappé un homme, c'est beaucoup plus grave que si on a frappé un animal. Bien que ce n'est pas écrit explicitement dans la Parasha Mishpatim, mais on le comprend entre les lignes de la Parasha Mishpatim. Pourquoi ? Chez Adam, Meshalem. Parce que si on a, Dieu préserve, frappé un homme, Meshalem, dans ce cas-là, on doit payer. Nezek, Tsar, donc on va traduire ensemble. Nezek, ça veut dire, tout d'abord, le dommage. Tsar, on doit également payer la souffrance qu'il a eue, ça s'évalue par le Beit Din. Ripouille, tous les frais de médecin. Chevet, c'est le chômage. Et Bochette, c'est la honte. Ou, pas seulement ça. Ou Meshalem, des Mevladot. Il y a encore une sixième chose qu'on n'a pas dit, c'est de Mevladot, c'est le prix des bébés. Ça veut dire que c'est le cas qu'on nous parle dans la Parasha Mishpatim, si des hommes se disputent et que sans faire exprès il y a un coup qui part sur une femme enceinte et qu'à cause de ce coup, cette femme enceinte perd, Dieu préserve, son bébé, c'est quoi le din ? D'accord ? C'est quoi le din ? Le din, c'est qu'on devra rembourser, le prix du bébé. Alors pareil, il y a un prix qui va être évalué par le Beit Din. Alors, quand on frappe un homme ou une femme, on a tout ce qu'on vient d'expliquer ici. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on rembourse le dommage à 100%. On est remboursé à 100%. Alors que Véchor est nommé Shalem et là, Nézek. Par contre, ça c'est pas écrit ça dans la Parasha Mishpatim. C'est une dracha que les Chachamim ont appris, parce que juste avant que la Torah nous impose de payer le dommage de l'homme, donc les cinq pôles de responsabilité qu'on a dit, là-bas la Torah emploie le terme Ish ki itenmu baramito. Un homme, lorsqu'il donnera un défaut, je vous traduis littéralement, c'est-à-dire lorsqu'il fera un défaut, baramito dans son ami. Donc Mara dit, attends, ça veut dire quoi son ami ? Son ami, ça veut dire pas forcément quelqu'un qui est ami avec lui, ça veut dire quelqu'un qui est comme lui. Donc ça veut dire c'est un homme. De là, on comprend que s'il avait frappé un animal, il ne rembourse que le nézec, que le dommage. Mais, par exemple, si après le propriétaire de l'animal veut dire, mais moi il y a du chômage, mon animal pendant 2 mois, il n'a pas pu travailler. Il y a le vétérinaire ? Je veux le meilleur vétérinaire. D'accord ? Il y a la honte que j'ai eue que mon animal a pris un coup. La honte, il y en a qui va voir. Ça n'existe pas. Chez un animal, la seule chose qu'on rembourse, c'est quoi ? C'est le coup. Il a eu un coup. Maintenant, il a un bras en moins. Enfin, il a un pied en moins. Tu lui payes le bras. Tu lui payes le pied. C'est tout. Mais rien d'autre. Pourquoi ? Parce que ça, c'est une dracha qu'on a pris dans la parasha Mishpatim. De la même manière, ou patour midme vladot. Ça, c'est un plus grand chidouche. Imaginez-vous deux personnes qui se disputent. Ou bien, une personne qui a un chien qui va frapper un autre chien. Ce chien était, enfin c'était une chienne qui était enceinte, qui attendait un bébé. Et à cause du coup, elle a perdu son bébé. Parce que c'est comme les hommes, hein, c'est la même chose. Quand il y a un coup, quand c'est quelque chose qui est trop choquant, soit le corps bouge trop, soit elle a eu très peur, elle perd son bébé. C'est exactement comme chez les femmes. Bon. Donc elle a perdu son bébé. Dis, rembourse-moi le bébé, c'est à cause de ton coup. Quel est le din dans ce cas-là ? Est-ce qu'on rembourse le bébé ?
Non.
Même si on sait pertinemment que c'est à cause de ça.
On a passé un chiot.
On sait ? Bien sûr, on sait. Ouais, il est en bonne santé, on en a un coup, ça tombe. C'est évident. Sinon, on ne sait jamais pour personne. On sait que c'est pour ça.
On avait dit que la preuve incombait à celui qui veut faire sortir l'argent
non, mais là, de son ami. Ça, c'est dans un cas dans lequel ils ne sont pas d'accord. Là, ils sont d'accord.
Ah, les deux sont
d'accord. Bien sûr, c'est évident. C'est évident, ils sont d'accord, c'est clair, c'est limpide, c'est visible. On voit clairement que j'ai donné un coup, suite à ce coup, il a fait une fausse couche. C'est clair que c'est à cause de ça. Sauf que, dans la Parasha Mishpatim, qu'on a lu il n'y a pas longtemps, là-bas, la Parasha Mishpatim, elle nous dit « Vechi natsu anashim venakfu isha ara ». Lorsque des hommes vont se disputer, Venakfu Ishara, ils vont frapper une femme enceinte. De là, la Gemara a compris que, cette, que le fait qu'on rembourse le bébé, c'est uniquement lorsque c'est une dispute entre des hommes, numéro 1, et numéro 2, ça a touché un homme. Donc c'est, ça a touché une femme qui a perdu son bébé. Mais sinon, on n'est pas responsable du bébé. Je dis pas que c'est logique. La Gemara dit clairement, elle dit que c'est pas logique, elle dit que c'est une Xera Takatou. C'est un décret de la Torah.
C'est-à-dire que si un homme frappe une femme et que Dieu
meurt, bien sûr, on paye.
On paye pas.
On paye, bien sûr qu'on paye.
Et quel est le cas que tu viens d'ajouter?
Il y a Rinatsu Anashim. C'est une dispute entre des hommes.
C'est deux hommes qui se disputent.
Non.
Et il y a un coup qui part accidentellement.
Non, c'est la même chose. C'est une dispute entre des hommes. Tant que c'est entre des hommes.
Ouais.
Entre deux êtres humains. Donc ça peut être qu'il a frappé directement une femme enceinte. Il paye, dans ce cas-là, il paye le...
Elle peut être fière dans la dispute, mais elle peut être impliquée.
Je ne sais pas comment c'est dans le droit. Quand vous avez un chien, par exemple, qui fait peur à une femme, et à cause qu'elle a eu peur, elle a perdu son bébé. Quelle est la... Qu'est-ce que dit le droit?
Ça va être compliqué.
Et bon, et si maintenant c'est un homme qui frappe une femme, à cause de ça, elle perd son bébé.
Alors, s'il l'a frappé, il y a un coup, il n'y a pas de problème, il va être responsable.
Et s'il lui a fait peur?
C'est
bispute.
Tu veux pas savoir.
Il faut vraiment qu'il y ait des témoins, fiables.
Il y a des témoins, pas de problème. C'est... Selon la Torah, si c'est entre deux hommes, on paye tout. On paye le chômage, même la honte, on va payer. Vous avez déjà vu quelqu'un qui attaque quelqu'un au tribunal, il lui dit j'ai eu honte, repaye-moi. Tout.
Imagine la nénette, ça fait 5 ans qu'elle fait des soins parce qu'elle est...
Elle est enceinte.
Ça, c'est
ce que j'appelle par chevet, un exemple dans la Gemara, c'est par exemple quelqu'un qui a eu peur. Aujourd'hui on appelle ça un choc psychologique. Vous avez des gens qui ont eu un choc psychologique et à cause de ça, ils n'arrivent plus à faire leur travail. Par exemple, vous avez un artiste. D'accord ? Un artiste qui travaillait principalement avec ses mains. Il a eu très peur et depuis qu'il a eu peur, il n'arrive plus.
Il tremble.
C'est un cas qui revient dans la Gemara, dans ce Perek. D'accord ? Eh bien, il va lui rembourser jusqu'à la fin de ses jours. D'accord ?
Qu'est-ce
qui se passe encore? C'est bien, venez vous asseoir. Une fois c'est le tournevis, une fois c'est le café, une fois c'est...
Oh non.
Hein? Toujours occupé, mon frère.
Regarde. Tu vois, regarde. Ils te font des verres.
Mais venez vous asseoir. On te dit maintenant.
Je dis, voilà, regarde le verre. C'est une récule du tour, il est un peu chaud.
Ok. Amaké est ta vie, V.S. Imo. Dieu préserve. Une personne qui frappe, donc je passe à la Mishnah suivante, Mishnah numéro 3, page 46. Amaké et Tavi Vetimo, une personne qui frappe son père ou sa mère. Le Vav ici, il faut comprendre par ou sa mère. D'accord ? Mais, Velo Asa Bahem Chaboura. Il ne les a pas blessés, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de sang. Parce qu'il faut savoir que s'il les a frappés de manière intentionnelle et qu'on l'a prévenu avant et qu'il y a eu du sang qui a coulé, c'est quoi le din ?
Chayav Mita.
Chayav Mita. Cet enfant doit être mis à mort.
Le sang, c'est pas d'accord. Forcément la preuve.
Ça dépend qu'il y a la gila.
Alors, en général, on dit du sang, mais c'est vrai que c'est pas que du sang. Khaboura, ça veut dire aussi une blessure, mais qu'il faut prouver que la blessure est venue à cause du coup.
Il faut prouver aussi que lorsque tu cries...
Là, j'ai parlé de blessure, là. J'ai parlé de blessure. Khaboura, c'est une blessure. Là, tu me suis, c'est traduit. Alors...
Non, c'est pas le
sang.
Demandez-moi.
Alors,
est-ce qu'il y a eu une honte?
Il y a
une honte.
Non, mais quand j'ai
une question là-dessus, j'ai
remis
la question.
Alors, Amaké est à vivre et à celui qui a frappé son père ou sa mère, Velo Asa Vahem Chaboura, et qui ne les a pas blessés. Donc, puisqu'il ne les a pas blessés, il n'est pas Chayav Mita, puisqu'on a appris, on avait appris il y a 2 ans, dans la Mishnah Sanhedrin, que Amaké Aviv Veimo Enochayav Achiyase Vahem Chaboura, que celui qui frappe son père ou sa mère, il n'est Chayav Mita seulement s'il a fait une blessure. Donc une blessure en général, c'est soit qu'il y a du sang, soit bien que c'est visible, quoi, qu'il a cassé quelque chose.
D'accord ? On va faire avec le plat de la main.
Bon. Donc ça c'est le cas numéro 1.
Voilà.
Alors, le problème qu'on a écouté bien, c'est que si le fils du préserve était Chayav Mita, dans ce cas-là, on a un principe qu'on a étudié déjà 3 semaines, qui dit que Kam le Miderabba miné, qu'on lui accorde toujours la peine la plus grave. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cumuler les peines. Ça n'existe pas chez nous. On ne peut pas cumuler les peines.
100 ans de prison, ça n'existe pas.
Non, on ne peut pas cumuler les peines. Il y a une seule peine. On prend toujours la plus grave. D'accord. Donc si il avait frappé son père ou sa mère, et qu'il leur avait fait une blessure, et que dans ce cas-là, il était Chayav Mita, même s'il est multimilliardaire, est-ce que on doit prendre, et que bon, et Dieu préserve, il a cassé quelque chose chez ses parents, et qu'à cause de ça, maintenant, ses parents ne peuvent plus travailler jusqu'à la fin de leur jour. Est-ce que les parents vont se faire rembourser de l'argent de leur fils? Non. Puisqu'on prend toujours la peine la plus grave. La peine la plus grave, c'est quoi ici? C'est la mort. Donc tout le dommage, ils ne remboursent pas. Eh oui, ils ne remboursent pas le dommage. Mais dans ce cas, comme Loasa Baem Ravoura, écoutez bien, comme il n'a pas fait de blessure, donc du coup, on va aller à la peine la plus grave. C'est quoi la peine la plus grave? Ben, la peine la plus grave, c'est les 5 pôles de responsabilité qu'on a donné, qu'on vient de dire. Ça, c'est le cas numéro 1. Ve'achovel bachavero ve'yom akipurim. Celui qui a frappé son ami le jour de Yom Kippour. Donc il a blessé son ami le jour de Yom Kippour. Donc il a fait couler du sang. C'est assourd. Sauf que le problème, c'est que transgresser Yom Kippour, on n'est jamais chayav mita par le Beddin. C'est toujours chayav mita, c'est chayav karet. D'accord ? C'est écrit mechalele à mot yumat, que celui qui mechalele Yom Kippour sera mis à mort. Rachid dit clairement, c'est expliqué, on a une dracha qu'on apprend, que celui qui transgresse Yom Kippour n'est jamais mis à mort par le Beddin. Il est mis à mort toujours par un Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que lorsque vous avez, si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, lorsque vous avez une personne qui vient à la synagogue avec la petite kippa d'Yom Kippour comme ça là, et qu'on dit ouais t'as vu celui-là il fait même pas Kippour, il est venu en voiture, c'est pas mes affaires. On n'a pas le droit de se mêler. C'est assourd.
Bien sûr.
Une drachette de la Gemara, on n'a pas le droit de se mêler.
Le Shabbat, oui.
Pourquoi Shabbat?
Alors Shabbat c'est un peu plus grave. Non, Shabbat c'est le Beit Din.
Oui, non mais.
Ah oui. Parce que, moi, et encore.
Shabbat, c'est le Beit Din qui.
On a le droit de se moquer Shabbat.
On a la preuve
que Shabbat c'est un Shabbat. C'est pratiquement jamais arrivé en passant.
Non mais.
C'est pas logique.
Faut le dire.
Il y a une différence entre Kippour et Shabbat.
C'est pas logique qu'il juge Laïla.
Une fois, il y avait un.
Laïla.
Une fois.
Kippour, il juge pas.
Je la connais pas moi Laïla.
Attendez. Une fois, il y avait un Rav Chabad qui s'est fait interviewer à la radio. Et bon, on savait, c'est un interview que tout le monde attendait. Il s'est fait interviewer par quelqu'un de très important. Donc, on savait qu'il allait se faire attaquer. Donc le rabbi l'a envoyé, etc. Et le rabbi, il a écouté l'interview à la radio. Alors, une des questions de l'interview, c'était quoi? C'était, oui, dans le judaïsme, on tue les gens. Dans le judaïsme, on tue les gens. Ça veut dire, si tu fais pas Shabbat, on te tue. Et bon, le rabbi, il a pas très bien répondu à la question. Il a un peu balbutié comme ça. Il a un peu tourné autour du pot. Alors, lorsqu'il est revenu, non, il a dit, je vais vous dire ce que vous aurez dû répondre. Vous aurez dû répondre que d'abord, on tue pas comme ça. Quand on tue, il faut d'abord que c'est une personne qui a été prévenue 3 fois. Et que cette personne-là, qu'est-ce qu'on appelle par être prévenu? C'est un ridouche. Ça devrait être prévenu. Ça veut dire que les témoins doivent s'assurer que la personne a compris la gravité de ce qu'il allait faire. C'est pas seulement qu'il a bien entendu. Qu'il y a un huissier qui est venu et qui a dit en tel jour, telle date, on l'a noté. Non. Prévenu, expliquer le rabbi, ça veut dire que ils doivent prouver qu'il était conscient et qu'il a compris la gravité de ce qu'il était en train de faire.
Par définition, c'est pas possible.
Par définition, c'est presque impossible. D'accord?
C'est pas possible.
Va prouver. 3 fois. Attendez, c'est pas fini. Et au moment où il va le faire, le jour où il va le faire, on a une 4e fois les mêmes témoins. Et chaque fois, ça doit être à chaque fois les mêmes témoins. Parce que, il y a une association des idées, donc à chaque fois, ça doit être les mêmes témoins à chaque fois qu'ils l'ont prévenu. Et la 4e fois, ça doit être les mêmes témoins qui vont lui dire, attention, on t'a déjà prévenu 3 fois, si tu vas faire, tu seras mis à mort. D'accord? Et c'est seulement là, une fois qu'on est sûr que la personne a manqué de respect à Kadosh Baruch Hu, que le Beit Din va lui accorder la peine de mort, et même ça, c'est pourquoi? Pourquoi il va lui accorder la peine de mort? C'est pour ça qu'Apara. Comprenez que quand on présente ça sous cet angle, c'est autre chose.
Dis-moi.
Voilà ce qu'il fallait dire au présentateur.
Dis,
mais attends une seconde. Quand
le
premier, voilà. Oui. Le ramasseur de bois, il a pas été prévenu 3 fois.
Bien sûr, Rachid dit. Le Mekoshé Shetim, plus que ça. Rachid dit que le Mekoshé Shetim, il a fait Messirut Nefesh.
Oui, oui.
Pour montrer, mais il l'a fait, ça veut dire. Ça veut dire qu'il savait la gravité de ce qu'il faisait. C'est un tzadik, ce Mekoshé Shetim.
Oui, ils disent que c'est des filles.
C'est le phrase.
Ouais.
Alors. On continue. Vachovel, Vachavero. Bon, c'est une parenthèse. Vachovel, Vachavero, Beyom, Akipurim. Celui qui blesse son ami le jour du Yom Kippour, il a blessé, il a fait couler du sang. Est-ce qu'il est chayav mita pour ça? Oui. Mais, pas bidé Adam, pas par les hommes, par un Kadosh Baruch Hu. Donc si c'est par un Kadosh Baruch Hu, on ne sait pas quand ça va arriver.
Dis-moi, parce qu'il a frappé, il avait l'intention de faire couler.
Oui, oui, bien sûr, tranquille, il a pris un couteau.
Mais c'est important.
D'accord?
C'est marqué.
Il s'est fait frapper.
Préméditation.
Préméditation! D'accord? Préméditation.
C'est marqué.
Sauf que, comme je dis,
ah oui, chrome. L'intention.
Avec préméditation.
Avec préméditation.
Même si c'est pas marqué, je le dis.
Tiens, il faut méditer
avant. Gava, non mais tiens, viens, je vous passe celui-là en hébreu si vous voulez. Alors, Vachovel Bachavero Beyamakipurim, Chayav Bekulan. Dans tous ces cas, d'accord, Chayav Bekulan, étant donné qu'il n'est pas passible de mort, bien que s'il avait modifié un petit peu son coup, D'accord? Il aurait pu être Hayav Mita. Mais étant donné que dans le cas précis, dans ce cas précis, il n'est pas Hayav Mita, c'est quel est le din? Il est Hayav Bekulin, c'est-à-dire qu'il devrait rembourser tout ce qu'on a dit. Donc c'est quoi les
dommage,
5 pôles? Tous les dommages, ça veut dire tout le chômage, tout. D'accord.
Et s'il n'est pas solvable.
Maintenant.
Ah, ça c'est le problème.
Eh ben, on le rend solvable.
Ah, mais on le rend évède, oui.
Mais il peut ne pas bosser en étant évède.
C'est ce que je viens de vous dire. On le rend solvable. Chez nous, quand il n'est pas solvable, on le rend solvable.
Mais si c'est un lepre, il va pas travailler.
Il va pas travailler. Et on va travailler, pas de problème. Tu vas garder un champ. Tout le monde sait garder un champ. Chômeur. Chômeur.
Tu parles, il va s'allonger dans le champ.
Pas de problème.
Il va ramener mes restes.
On le rend solvable.
Tu vas garder un champ, tu vas garder un restaurant.
On lui trouve du travail, comme dit Sarkozy. Alors.
Travaillez plus.
On le met chômeur, Beddin.
Achovel Beeved Ivri, Chayav Bekulan. De la même manière. Une personne qui a blessé. Alors écoutez, ça c'est un cas intéressant aussi. Une personne qui a blessé un Eved Ivri. Donc un Eved Ivri qui a été blessé. Chayav Bekulan. Il est Chayav de tous. Ça veut dire quoi de tous? Ben, ça veut dire tout ce qu'on a dit. Ça veut dire le dommage, la souffrance, le médecin, etc. Routz Minachevet. D'accord? Sauf. Minachevet, le chômage. Attendez. Bisman chez où chez l'eau. Dans le cas où ils sont esclaves. Tu vas dire, attends, chômage chez qui? C'est pour qui chômage? Pour moi. D'accord, donc c'est pas tes affaires. C'est moi, je veux me payer à moi-même, donc ils remboursent pas ça. D'accord?
Mais je croyais que.
Mais attends.
Ils n'avaient pas libéré quand on avait blessé son
esclave. Oui, enfin, voilà.
Une question. On va voir tout de suite. Alors, regardez. Dis maintenant, Achovel Be'evet Knaani Shalachérim. Si maintenant une personne a blessé, même si c'est un Evet Knaani, un Evet Cananéen, mais c'est Shalachérim, c'est à d'autres personnes, dans ce cas-là, Chayav Bekulan, il doit tout rembourser. Et à qui il rembourse? Il rembourse au propriétaire. Alors ça c'est un chidouche. Pourquoi c'est un chidouche? Parce que c'est pas écrit dans la Parasha Mishpatim. Le cas qui est écrit dans la Parasha Mishpatim, ah oui c'est une déduction, mais c'est pas simple. Parce que le cas qui est écrit dans la Parasha Mishpatim, c'est deux personnes majeures et responsables et qui s'appartiennent à eux-mêmes, qui se blessent. D'accord? Et c'est pour ça qu'à tel point que la Gemara se pose même la question, est-ce que quand on a blessé un enfant, on a ces 5 pôles de responsabilité? Parce que le cas de la Parasha Mishpatim, c'est Ish. C'est quoi Ish en hébreu? C'est un homme responsable. D'accord? Alors les femmes, on les a rajoutées aussi, d'accord? Parce qu'elles peuvent être responsables, elles peuvent être majeures. Mais Katan, c'est pas si simple. Oui, c'est pas si simple un Katan. Et là, le chidouche de la Mishnah, c'est quoi? Le chidouche de la Mishnah, c'est que même un Eved, étant donné que concrètement, il me servait à quelque chose, qu'il a une valeur marchande, et qu'il servait à quelque chose, et que...
Non, donc un enfant aussi?
Si je comprends bien, tu renverses un Eved de quelqu'un d'autre, et dans le fait que tu l'as renversé, tu l'as pété une dent.
Oui.
Tu vas les dédommager toutes les années qu'ils devaient travailler au propriétaire, puisqu'on va devoir le renvoyer.
Ah non, le cas de la dent, c'est uniquement si le propriétaire lui a cassé la dent.
Tu vas lui payer le dentiste.
Bien sûr.
Tu vas pas lui payer le...
Bien sûr.
Non, s'il a une dent cassée,
c'est pour la mutuelle.
D'accord. Alors. Non, rembourse pas.
C'est comme une rupture de contrat du propriétaire.
Maintenant, si tu me permets, je vais rajouter...
Pourquoi il serait parti s'il a une dent cassée?
Je vais rajouter encore un cas. Attendez. Je vais rajouter encore un cas, regardez. Écoutez-moi ce cas. Si maintenant... C'est le propriétaire lui-même qui a frappé son esclave.
Ça, c'est pchad.
Attendez. Donc, normalement, il doit lui rembourser les 5 pôles de responsabilité qu'on a dit. Sauf qu'il va se défendre, il va dire non. Il va dire, moi, j'ai une peine encore plus grave. C'est quoi la peine la plus grave?
J'ai perdu l'usage de cet
esclave. Je dois renvoyer cet esclave.
Ouais.
Donc, il pourra se défendre, il pourra dire, écoute, je te laisse, tu pars avec ta dent comme ça, je te paie rien, mais tu prends ta... Eh ben oui. C'est ça la logique, parce que la logique elle est Kamle Bidirabaminé.
J'abandonne ma dette pour ça.
Non, Kamle Bidirabaminé, bien sûr, l'abandonne l'esclave, il est pas bête. Kamle Bidirabaminé, ça veut dire on prend toujours la peine la plus grave. Rabaminé, ça veut dire celle qui est toujours plus grave. On cherche toujours la peine la plus grave. Et c'est celle-là qu'on prend. Toutes les autres, on les oublie. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, ce que je vous dis qui est intéressant, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, En la Vadim Bochet. Il dit non.
Il y a pas de honte.
Il dit, il y a pas de honte pour les esclaves. Pourquoi? Parce que un des 5 pôles de responsabilité, c'était la honte. Rabbi Yehuda dit un esclave est déjà quelqu'un qui a honte. C'est pas seulement ça. Un esclave est quelqu'un qui a appris à ne plus avoir honte. D'accord? Alors en vérité, la Gemara explique que le point de la marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama, donc qui est Rabbi Meir, le point de la marloquette, c'est comment considérer halakhiquement un esclave. On sait que même un esclave cananéen, il est assujetti aux mêmes mitzvot que les femmes. D'accord? Bon. Donc.
Il peut,
mais en tout cas, il est assujetti aux mêmes mitzvot que les femmes. Ouais. D'accord. Alors la question qu'on se pose, c'est, étant donné qu'il est assujetti aux mêmes mitzvot que les femmes, est-ce que dans ce cadre-là, on va le considérer comme un homme libre? Oui ou non? Alors, le premier avis qui a dit oui. C'est le premier avis qui a dit qu'un esclave est quelqu'un qui a une personnalité, qui est...
Donc il a de la honte.
Et donc il a de la honte, donc on veut lui payer sa honte. Et si, même si lui ne s'appartient pas, donc on va payer cette honte à son maître. Et c'est l'avis de Rabbi Meir, le premier avis. Rabbi Meir a dit non, il dit un esclave ne sait pas ce que c'est la honte. Il a oublié ce que c'est la honte.
Excuse-moi, il inclut l'esclave hébreu?
Non, a priori, il parle d'esclave cananéen. Il parle d'esclave cananéen. D'accord? Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Rabbi Yehuda, et la halakha n'est pas comme lui, hein. Selon Rabbi Yehuda, un esclave a mis de côté la honte dans sa tête. Comme ça explique la Gemara. C'est-à-dire qu'il y a des gens, que, comme ils savent qu'ils vont entrer dans une certaine situation, il a plus honte. Il a plus honte. Alors, c'est comme si vous prenez, par exemple, je sais pas, moi, j'ai toujours pensé, je me suis toujours posé la question depuis que je suis enfant, est-ce qu'un poubellier, il a honte? Ah, c'est vrai.
Un éboueur.
Un poubellier, ou un technicien de surface, voilà, le terme
joli. Il est fier de faire ce qu'il
fait. Attendez, est-ce qu'il a honte?
Il a pas honte, mais en plus, il est fier.
Est-ce qu'il a honte ou il a pas honte?
Ça dépend s'il est avec ses amis ou pas.
Eh ben, non, ben. Pourquoi de Rabbi Yehuda? On a un très grand principe de psychologie de Rabbi Yehuda, mais la halakha n'est pas comme lui. Hein. La halakha n'est pas comme lui parce que ils ne sont pas d'accord sur la dracha qu'il a fait du pasouk.
Ouais,
mais Rabbi Yehuda nous apprend quelque chose de très important. Il nous apprend que dans la tête d'une personne, une personne peut décider de ne plus avoir honte de quelque chose. Et il peut décider que maintenant ça ne fait plus honte. Et il aura plus honte.
Oui.
C'est-à-dire que l'esclave, lorsqu'il devient esclave, il décide de plus faire attention
c'est
à certaines choses. Et c'est pour ça qu'on considère qu'il n'a pas eu honte.
Mais, excuse-moi, le cas par cas, hein. Il devient pas esclave
sans. Oui, mais quand il devient esclave, il sait que maintenant, il va être à la traîne derrière son maître, et donc du coup, il a plus honte. Il a envie de... Ça change pas. Mais concrètement, il sait que pendant 6 ans, il va devoir être derrière son maître, comme ça.
Tu parles d'un esclave hébreu, là?
Même un esclave hébreu, oui.
La prochaine est différente. Je pense que l'esclave cananéen, on a des esclaves de force.
Et alors?
Qu'est-ce qu'il avait à s'occuper 12 heures?
Très bien, mais la question n'est pas est-ce qu'il voulait ou est-ce qu'il voulait pas. La question est-ce que maintenant dans sa tête, il a honte ou il a plus honte?
Ça dépend de son rang social. D'accord. Précédemment.
Rabbi Yehuda, il dit que l'esclave va s'habituer, qu'il n'a plus honte. Mais la halakha n'est pas connue, de toute façon.
C'est des cas spéciaux, peut-être, tu sais, des gens qui sont fils d'esclaves.
Non.
Peut-être, pour certaines formes de honte, il aura
pas honte. Rabbi Yehuda, c'est clair ce qu'il a dit.
Il aura toujours un point de principe.
Déjà des fils d'esclaves.
Attends.
Ouais, c'est un peu différent,
comme situation. Enfin, encore une petite Mishnah. Cheresh, Shoté, Vekatan, Pegiatan, Ra. Alors, maintenant. Cheresh, c'est un sourd-muet. Shoté, c'est un fou. Un fou, ça veut dire quelqu'un qu'on lui demande d'aller chercher quelque chose, il n'est pas capable de le faire. Vekatan et un enfant.
Il n'y a pas des fous.
D'accord. C'est ça la définition d'un Shoté.
Shoté, c'est pas bois.
Non, c'est avec un tav, ça.
Ah, d'accord.
Avec un tête, un fou.
Un
fou, c'est-à-dire quelqu'un qu'on lui donne, on lui demande, va faire une course, il n'est pas capable de te ramener ce que tu lui as demandé.
Quand tu l'appelles, je ne te rappelle pas.
D'accord.
C'est quoi?
Ça n'a aucun rapport.
Ça n'a aucun rapport, c'est une personne qui dénigre. Alors, Kheresh, Shoté, Vekatan, c'est un katan, ça. Donc, une personne qui est soit sourd-muet, soit fou, soit enfant. Alors, écoutez bien ce que dit la Mishnah, Pegiatan Ra. Celui qui les frappe, il est toujours perdant.
Non, mais attends, il dit un débile mental, il dit d'accord. Pas un fou.
Débile mental.
C'est un peu plus... bah,
c'est quoi un débile mental? Je viens de vous expliquer.
C'est un peu plus...
Alors, non, mais attendez, je vais finir. Donnez-moi encore 2 minutes. Pegiatan Ra'a, ça veut dire que les frapper, c'est toujours mauvais. C'est toujours mauvais d'être à côté d'eux. Pourquoi? Achovel Bahen Chayav. Celui qui les blesse, il est Chayav. C'est quoi il est Chayav? Ça veut dire il est Chayav dans les 5 pôles de responsabilité que j'ai dit. Donc là, je vous dis, c'est le chidouche que je vous ai dit tout à l'heure.
Si
que bien que la Torah avait dit Ish...
Pourquoi il aurait honte?
Attendez. Il y a la honte des parents.
Il met son
mon fils,
sur la tête.
Il a la honte des parents. Toujours. Oui, attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ça s'arrête pas. Alors, Achovel Bahen Chayav. Celui qui les a blessés, il est Chayav. Mais par contre, Hem Shechavlu Bacherim, si c'est eux qui ont blessé les autres,
ils sont Chayav.
Non, Ptourim, ils sont pas
Chayav.
Irresponsables, ils sont pas solvables.
Donc il a rien à gagner.
Pourquoi? Parce qu'on considère qu'ils sont pas venus d'Arat, ils n'ont pas de Darat, ils n'ont pas de responsabilité, donc on peut pas les punir. D'accord?
C'est ce que tu dis.
Alors, de la même manière, attendez, c'est pas fini.
Si je l'envoie tuer quelqu'un.
Aïved Vaïcha. Aïved Vaïcha. C'est Dieu qui paye, on a dit. Aïved Vaïcha. De la même manière, un esclave et une femme. Pegi atteindra. Pareil, c'est le même problème. Achovel Ben, celui qui les a frappés, celui qui les a blessés. Bien sûr, il est Chayav, tout. D'accord? Mais Vehem Shechavlu Bahrim. Mais par contre, Hem Shechavlu Bahrim, eux qui ont blessé. Donc elle, enfin, l'esclave ou la femme qui a blessé les autres, Ptourim, ils sont pas tout. Ça veut dire qu'ils sont pas. Attendez, ça veut dire qu'ils sont pas tout. Explique que Rachid, ça veut dire qu'ils n'ont pas de quoi rembourser, puisque tout ce qui appartient à la femme appartient
au mari.
De la même manière, tout ce qui appartient à l'esclave appartient à son mari. Ça veut pas dire qu'une femme est esclave. Attention.
À son maître, elle est comme. Sur le même statut.
Mais d'un autre côté,
l'esclave qui a le même statut que la femme.
Et d'un autre côté, l'homme s'engage à donner tout ce qu'il a pour sa femme.
Alors, c'est qui l'esclave?
D'accord. Et
donc
oui.
Tu as l'une qui est tout bas? Lila Ketouba, on va voir qui est l'esclave de qui. Hein,
les obligations de l'homme vis-à-vis de la femme.
Oui, là tu vois que...
Aval, mais...
Il ne la lit pas en aramé.
Aval, mais... Meshalmin la Harzman. Mais par contre, Meshalmin la Harzman, là la différence qu'il y a avec le... La différence qu'il y a ici, c'est que Meshalmin la Harzman, c'est que étant donné que la femme ou l'esclave était majeur au moment où ça s'est passé, mais qu'il était marié ou bien qu'il était esclave, alors le jour où cette femme divorce, Dieu préserve, ou bien que l'esclave va être libéré, eh ben, il va aller revoir celui qui l'a visité, il dit, tu vois là, l'œil beurre noir que j'ai ici, c'est toi là, tu payes maintenant.
Il est parti l'œil beurre noir.
C'est quelque chose qui n'est pas parti.
C'est moral, claque morale.
D'accord. Là, dans ce cas-là, Chayavin et Chalim le GTP. Ça veut dire comme ça, écoutez bien. Alors, la Gemara explique si on parle d'un cas comme ça. On a une personne, imaginez-vous que j'ai un esclave. Bon. Il y a quelqu'un qui vient à la maison, qui décolle une droite à l'esclave, il lui casse quelque chose. Alors, il me dit, si tu veux, je te rembourse. Je dis, non, rembourse pas, te dérange pas, c'est pas grave.
On verra plus.
D'accord. Non, moi, c'est pas l'esclave qui dit, c'est le propre, c'est le maître. Oui. Te dérange pas, c'est pas grave, c'est rien.
Finis-le,
d'accord.
Finis-le.
C'est pas un problème. Tu continues, donne-lui une autre si tu veux. D'accord. Il continue, l'autre, il paye pas. D'accord.
Privée.
Dans ce cas-là, on peut rien faire. Tu peux rien faire, parce que l'autre, il dit, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu t'as rien exigé, il t'a dit, c'est pas grave. Mais par contre, le Eved pourra se retourner contre la personne, contre celui qui l'a frappé, le jour où il sera libre. Chose qu'un katan ne peut pas faire. Parce que le katan, au moment où il a reçu le coup, il était enfant. Alors que le Eved, au moment où il a reçu le coup, il était adulte.
Mais attends, il est devenu adulte entre temps, le katan.
Eh ben, dans ce cas-là, le katan pourra se retourner contre son père.
Pour lui dire rien fait.
Non, là, il pourra lui dire, va chercher, va le dire à l'autre. Va le dire, rembourse-moi.
Mais si ton père, il est mort, il y va pas.
Je sais pas. Ah oui, parce que on se base sur le moment, ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est, la Gemara doit amener un chidouche, parce que le cas que nous parle le Parashat Mishpatim, c'est un ish, c'est un homme. D'accord.
Le choté, on a dit.
C'est une gzera takatouv. Je vous disais tout à l'heure, c'est une gzera takatouv. Que quand c'est pour un enfant, c'est les parents qui doivent attaquer. Et s'ils l'ont pas fait, bah même plus tard, c'est les parents toujours qui doivent attaquer. Alors le chidouche avec le Eved, c'est que le Eved, lui, au moment où il a reçu le coup, il était adulte. Donc étant donné qu'il était adulte, plus tard, il peut se retourner.
Oui, mais on parle du quel Eved là, souvent.
Les deux, un des deux.
Un des deux.
Oui, ça change pas. Parce que les deux sont libérés. Les deux sont libérés.
Ivri, Kremlin Bicêtre.
C'est pas l'inverse, le cas de la Mishnah. C'est pas le cas où l'esclave frappe un homme, l'esclave est patour, et c'est lorsqu'il est libéré que la personne.
T'as raison, Rambam explique comme ça. Il dit que Meshamil la Harzman, c'est que la personne pourrait se retourner contre le Eved le jour.
Une fois qu'il est libéré.
On peut expliquer comme ça aussi, mais c'est surtout.
C'est la tradition, hein.
Peut-être.
Lorsque la femme est divorcée ou l'esclave est libéré, ils sont tenus de payer, c'est sous-titrage.
Ouais. Non, ça, on peut expliquer comme ça aussi.
D'accord.
Mais c'est plus logique, à mon avis, d'expliquer que quand on dit Chayavin Shalem, c'est que, au contraire, le chidouche est plus fort quand on dit que Chayavin Shalem, ça veut dire que le, qu'on appelle ça, que le Eved pourra se retourner.
C'est vrai que vraiment. En fait, c'est comme lorsque la personne, en question, retrouve un état de responsabilité.
Voilà. Et donc, il va régler les comptes.
Dans un sens comme dans l'autre, puisque maintenant on est face à des personnes responsables, on peut commencer à discuter.
Ouais.
Oui, mais quand il a fait là qu'il n'était pas responsable, donc c'est difficile de
penser. Non, la responsabilité est portée sur le maître.
C'est ça.
Il pouvait pas, il n'était pas autonome, il n'avait pas le droit de prendre des décisions pour lui. Donc à partir du moment là, c'était comme suspendu. À partir du moment où il récupère sa capacité de prendre des initiatives, parce que tout est là, l'esclave n'a pas le droit de prendre des initiatives.
Oui, pourquoi une fois qu'il a dû, tu peux, alors que quand il a
subi le préjudice,
si tu prends comme Guy a expliqué, Martin Droit a expliqué, il dit comme ça, il dit qu'en vérité, l'esclave, quand il a frappé, normalement, il aurait dû rembourser. Parce qu'il est adulte. Sauf qu'il n'a pas de quoi rembourser. Puisqu'il n'y a pas de convention, on dit on met une pause.
Mais ça déborde.
Mais le jour où il aura de quoi. Non.
Pourquoi
ça ne va pas sur le maître.
On peut le remettre à l'esclavage.
Le sort d'une personne endommage quelqu'un.
Non, ça ne va pas sur le maître. Ça ne va pas sur le maître parce que le maître va. Si le maître n'est pas solvable.
C'est une autre chose.
Ah oui.
On n'a jamais posé de question.
Il n'a pas de racines. Non, il n'a pas de biens. Donc puisqu'il n'a pas de biens, dans ce cas-là, il ne rembourse pas. Alors c'est intéressant, mais bon, c'est pour ça que je n'ai pas expliqué comme ça. Mais selon Barthénoré, il explique comme ça aussi. Il dit comme ça. Il dit que, en vérité, le évêque, quand il a frappé, il aurait dû rembourser. Seulement, comme il n'était pas solvable, donc, on ne dit pas qu'il ne rembourse pas, on dit qu'on va mettre une pause. On met une pause, mais le jour où il aura de quoi rembourser, il devra rembourser. C'est pour ça que quand il dit Chayavin le Shalem, Barthénoir rajoute, il dit que Chayavin le Shalem, si entre-temps, lorsqu'ils ont repris leur liberté, ils ont pris des biens. S'ils n'ont pas de biens, comment ils vont rembourser?
Mais
et pour
attends,
la femme, c'est un cas un peu...
Et pour la femme?
Pareil.
Mais en elle-même, elle n'a pas de,
la
elle
Ketouba,
pas de,
elle
de responsabilité.
Ah ben.
Si une femme frappe un homme, c'est pas son mari qui est responsable des dommages que ça peut entraîner?
Non.
C'est terrible, ça veut dire qu'il y a cinq types de personnes dans la Torah.
Alors, il y a des
qui
cas...
sont complètement exemptes de tout des.
Non, c'est pas exempt. C'est qu'ils remboursent pas toutes les, ils remboursent pas tous les états qu'on a dit ici. C'est-à-dire le chômage, etc. Mais par contre, il y a d'autres cas dans la Torah. Par exemple, on sait qu'une femme peut faire honte à quelqu'un.
Oui.
C'est le fameux cas de la parasha mishpatim.
D'accord. En les parties.
Oui, parce que c'est particulier. C'est ce qu'on dit ici. En shechavul bachrim, pturim. Quand je dis pturim, d'accord.
Ah, c'est un cas que prend la Torah, ouais. Parce que je vois pas autrement pourquoi ça, parce que...
C'est un cas quand une femme se bat avec un amour.
Non, non, quand deux hommes se battent et une femme prend les parties...
Donc elle a fait honte, donc il y a un concept de honte. C'est... Parce que ça, c'est la Torah l'a dit explicitement. Sinon, la Torah dit ish.
Mais c'est très sévère, hein, la punition, là. Hein.
Oui. Oui, bon, c'est pas... Faut pas comprendre le sens simple.
Donc, ça veut dire qu'il y a cinq types de personnes dans la Torah.
Hein?
On l'encule.
Non, non.
Il y a cinq types de, il y a cinq types de personnes qui sont complètement,
En plus, le verset, il dit là-bas, excuse-moi, il dit, le tachosendra alav, tu n'auras pas pitié d'elle, etc. Enfin, le verset est très dur, là. Ah oui, parce que, c'est une femme qui, c'est fait nude.
Je sais pas si on parle de,
il y a d'autres cas qui sont passés, pour autant, la Torah n'est ramène pas.
Non, ça c'est, tu vois, c'est pas propre.
Bon. Et donc, il y a cinq personnes dans la Torah, cinq types de personnes qui sont complètement exemptes.
Non, c'est pas qu'ils sont exemptes, c'est qu'on peut pas leur appliquer les cinq pôles de responsabilité qu'on
d'accord,
a dit avant.
Mais ça veut dire que quand on parle d'esclave, c'est un esclave hébreu ou cananéen?
Là, l'esclave, quel esclave? Ici, il n'y a pas de différence.
Il n'y a pas de différence.
Non, c'est la même
chose. Ça veut dire qu'il peut y avoir des groupes d'esclaves cananéens qui se constituent en Israël, qui vont attaquer les juifs et qui vont les frapper. On peut rien leur réclamer.
Tu peux rien réclamer à l'esclave?
Oui.
D'accord. Maintenant, après, si le maître était prévenu, etc. Après, est-ce qu'on peut se retourner contre le maître ou pas? C'est une autre question. Mais c'est en tant que bien qui appartenait au maître. C'est pas la même chose, tu comprends? Je vais expliquer encore. Non, c'est important d'expliquer. Je vais expliquer. Il y a une différence. Est-ce que c'est moi qui ai fait un dommage ou est-ce que c'est mon bien qui a fait un dommage? C'est pas la même chose. Quand c'est moi qui ai fait un dommage, dans ce cas-là, je suis responsable de tous les pôles de responsabilité. Mais quand c'est mon bien qui a fait un dommage, c'est pas la même chose.
Du papier?
Oui.
Tu comprends? C'est vrai qu'on ne peut pas le rendre rayable des 5 pôles de responsabilité. Par exemple, imagine-toi, je vais donner
un exemple. Un enfant, c'est un dommage.
Alors, maintenant, je vais vous donner un exemple. Un enfant qui a fait honte à quelqu'un. Il a fait honte à quelqu'un, il a insulté quelqu'un, il lui a fait honte. Il m'a fait honte. Je veux qu'on me paye. On paye pas.
Il blesse.
Nézek, oui, ça c'est comme un animal. Le dommage, toujours on paye le dommage. Mais tous les choses qu'on a dit, par exemple, le chômage qu'il n'y a pas derrière, la honte, etc., le médecin, ça on paye pas. Parce que un enfant, c'est un bien qui nous appartient. Un bien qui m'appartient, je suis responsable, j'ai une responsabilité limitée. D'accord? C'est ce que dit la Mishnah.
Ah,
ouais, on s'arrête là.